peut-être que ça passe. Hein.
Oui, oui, ça y est, Jacques, ça passe.
Bon, eh ben, écoute, voilà, ben, je suis perdu au soleil, un peu loin du studio, mais enfin, tout va bien, et j'ai entendu avec beaucoup de plaisir Thelonious Monk et John Coltrane, hein, voilà. Qui sont mes jazzmen préférés. Oui. Oui. Alors, Josie n'est pas ici, mais elle est partie au travail, parce que tu sais que le Tripalium, il faut exercer la parité, et il n'y a pas longtemps, c'était la journée de la femme, et donc la torture, le travail, eh bien, je l'ai envoyée au travail, mais si elle avait été dans le studio, elle aurait parlé d'un bouquin que tu connais, je crois, d'ailleurs, d'un Irlandais qui... a une vision d'une société dans laquelle la révolution ne débouche pas sur un pouvoir. Oui. Hein, et je crois que c'est un sujet très intéressant, parce qu'on voit bien que ces révolutions arabes, elles ont débouché malheureusement sur des pouvoirs encore plus épouvantables que ceux qu'elles sont censées avoir détruits.
L'auteur
dont je voulais parler.
Oui. L'auteur, le nom de l'auteur.
C'est...
Holloway.
Holloway, voilà, c'est ça. Holloway, bah tu vois, tu le savais.
Bah c'est pour ça, non, mais je voulais te le faire le
parce
faire
que je
dire.
Crois que c'est son deuxième bouquin, et elle a trouvé ça, cette critique dans la brochure trimestrielle qui s'appelle Offensive Libertaire.
Exactement. Donc on recommande aux auditeurs, et que vous pouvez trouver dans tous les bons kiosques et maisons de la presse.
Voilà. Alors, en ce qui me concerne, ce que je voulais dire, ce que tu as évoqué d'une façon déjà assez précise, c'est la notion d'otage, c'est être prisonnier d'une certaine force, d'un État autoritaire, d'un État qui n'a aucune morale. C'est à propos évidemment de ce drame qui a eu lieu hier et qui est l'exécution d'un otage au Mali. Et puis également la prise d'otage, le mépris de l'individu à propos de ce qui s'est passé en matière de religion, à propos de la cérémonie d'investiture du pape. Et dans le coin où je suis, il y a eu au Moyen-Âge des antipapes. Alors je pense que je vais essayer d'en dénicher un. Et puis aussi, ce que tu as évoqué également, c'est la prise d'otage de l'ensemble des citoyens, hein, des citoyens, c'est le cas de le dire, de ce que tu dis d'habitude, parce que comme t'es rien du tout, eh bien les banques, avec l'appui évidemment des pouvoirs d'État, peuvent se permettre de faire un hold-up sur ton fric, sur tu n'as plus aucune autorité, autonomie sur ce que tu disposes, ce dont tu disposes comme produit de ton salaire ou produit de ta retraite.
Jacques, je voulais parler juste ça, je te dis ça simplement, on est bien dans un système totalitaire.
Absolument.
Les signaux sont là tous les jours pour le démontrer. Et
absolument.
Donc, voilà.
Alors, en ce qui concerne justement le premier thème de l'otage, du mépris de l'individu, ce qui m'a frappé, c'est que cet otage parmi les 15 qu'il y a, 15 Français qu'il y a et qui auraient été exécutés hier, on pense que l'exécution est due aux illuminés, comme le dit le Premier ministre du Mali, aux sauvages terroristes, aux religieux musulmans, etc. Mais il est aussi dû à la France, et je crois que l'exécution de cet otage, et qui risque d'être suivi de l'exécution d'autres, puisque apparemment le groupe terroriste religieux qui l'avait pris demandait non pas de l'argent, mais il demandait la libération d'un certain nombre de ses confrères. Eh bien, cette exécution, elle est entièrement sur les épaules de Monsieur Hollande. Elle est entièrement sur les épaules de l'ensemble du gouvernement français.
Du chef de guerre,
j'ai été absolument scandalisé par le discours qu'il a fait, encore une fois, dans un secteur de conservatisme de réaction religieuse qui s'appelle le CRIF. Je ne sais pas si tu as entendu ça hier à la, télé. Parce qu'ils ont été non seulement se promener, Jean-Marc Ayrault allait faire sa bénédiction et aller baiser la main du pape François à Rome, mais en même temps, Hollande était au CRIF, hein, voilà. C'est-à-dire cette organisation sioniste qui est la plus abjecte de toutes les organisations, celle qui évidemment soutiendra sans défaillance l'attaque de l'Iran par Israël et puis l'élimination complète des Palestiniens. Donc, voilà ce qu'il disait. Il disait, nous devons nous préoccuper du sort des otages, mais un peuple est fort et par conséquent, un peuple fort ne se laisse pas entraîner dans des discussions avec des ennemis. Voilà, un peuple fort. Il disait pas un gouvernement fort, il nous mettait à nous, l'ensemble des citoyens, il nous mettait
en otage.
Sur le dos, en quelque sorte, du crime qu'il était en train de commettre. Oui. C'est-à-dire, il a l'air de dire, mais au fond, on n'en a rien. Les otages, ce qu'il faut, c'est rester fort.
Bien sûr, ben on est la population prise en otage.
Absolument.
Exactement, de la même manière.
Alors, si tu veux ce genre de discours, il faudrait d'ailleurs retrouver exactement le texte de ce qu'il a, dit, parce que c'est véritablement, alors là, le mépris total de l'individu, le mépris total de ce que nous sommes et de ce que ces gens-là, c'est pour ça que la notion de pouvoir, d'autorité, de gouvernement, effectivement, est tous les jours mise en cause, ne serait-ce que par référence à ce que disait Proudhon sur l'État, qui est complètement étranger à toute idée morale, mais oser dire que le peuple fort a d'abord à s'occuper de sa force et puis, au fond, mépriser chacun de ses membres, mépriser chacun de ceux qui le composent, c'est véritablement un crime.
Alors juste, Jacques, je voulais te dire, je l'ai évoqué tout à l'heure, que le nombre d'otages pour l'ensemble des pays de la planète, la France est numéro un. Il ne faut pas oublier aussi une chose importante, c'est que les négociations, il y en avait en sous-main, comme on dit, par rapport au pognon qui pouvait être demandé par justement à la suite pour restituer les otages. Hein, et là, le changement qui est fait, c'est maintenant, comme il l'a dit, eh bien, ils ont pris la décision, le gouvernement et en particulier, je dis Saint-François du Latran, hein, c'est Saint-François de Latran, quand même celui qui est de l'Élysée, eh bien, la décision est prise de ne plus payer, de ne plus rien donner, donc on va aboutir, justement, on risque d'avoir des exécutions.
Bien sûr, cette décision, d'ailleurs, a précédé de quelques heures l'exécution du pauvre otage français.
Oui, hein. on a vu la famille, on a vu une femme, justement, s'exprimer par rapport à ça, qui était absolument désolée. Alors là, il faut dire aussi que les prises d'otages, et ben c'est la conséquence, évidemment, de l'intervention des chefs de guerre en Afrique, et en particulier de la France, et ne pas oublier qu'elle est impliquée dans tout un tas de conflits, et que là, encore une fois, on le voit, même en ce qui concerne, comme on appelle ça, l'opposition, la droite ou l'extrême droite, condamnerait justement l'engagement pour la France et la Grande-Bretagne de livrer des armes la rébellion entre guillemets syrienne.
Là on peut dire que c'est même complètement grotesque parce que on va livrer des armes à des djihadistes, à des terroristes religieux. Les quelques laïcs qui étaient dans la rébellion syrienne ont baissé les armes. Il y a d'ailleurs eu une double page dans Le Monde sur ce sujet-là, en disant, alors ils ont dit, nous, on continue pas, parce que finalement, ceux qui ont pris le contrôle de la rébellion syrienne, ce sont les terroristes religieux, et par conséquent, nous, on arrête. Alors, on va aller donner des armes à ces djihadistes qu'on est en train de pourchasser en Afrique, ce qui est d'un grotesque absolument incroyable et que personne, aucun journal, aucun média ne souligne.
C'est ce que l'on dit. Alors évidemment, là-dessus, par rapport aux médias, c'est comme jamais, c'est-à-dire l'unanimité sur l'ensemble des chaînes, l'ensemble des radios, l'ensemble des télévisions.
Oui. Hein, et même sur FR3, je crois, hier ou avant-hier, il y avait un documentaire qui faisait l'apologie de l'envoi d'armes et l'envoi de renforts, je suppose qu'ils allaient peut-être même jusqu'à dire qu'il faudrait envoyer des troupes pour aider les rebelles djihadistes syriens à chasser Bachar el-Assad. Or, il est invraisemblable qu'il n'y ait pas un journaliste qui dise « Mais on voit ce que ça a donné, le changement de pouvoir. » Quand on pense qu'on veut limiter la notion de liberté de justice, c'est-à-dire théoriquement la démocratie, on veut la limiter au vote, hein, c'est-à-dire au fétichisme de la délégation de pouvoir, eh bien on voit bien qu'en Libye, qu'en Tunisie, qu'en Égypte, les nouvelles autorités, les nouveaux pouvoirs sont pires que les anciens. Donc, effectivement, mais c'est surtout cette notion du mépris de l'individu que je voulais relever là-dessus, parce que il y a également ce qui se passe à Rome et ce qui se passe également en France, puisqu'au fond, je disais tout à l'heure, Hérault était en train de baiser la main du pape, pendant que Christ était en train de baiser, pendant que Hollande était en train de baiser la main du rabbin qui dirige, ou de je ne sais quelle autorité qui dirige ce groupuscule absolument terrifiant et lui-même terroriste. Eh bien, non seulement il a dit ce que je rappelais tout à l'heure, Hollande au CRIF, mais en plus, il a en quelque sorte rappelé quelque chose qui me paraît également le mépris total de l'instruction de l'émancipation de l'individu. Il a rappelé ce que Jules Ferry rappelait, ce que Sarkozy rappelait, à savoir que la laïcité, c'est aussi et c'est surtout la liberté de culte. Hein, c'est-à-dire, au fond, j'entendais non seulement des gens comme Hérault ou comme Hollande dire « Mais oui, vous savez, nous sommes pour la liberté d'expression », comme si un religieux avait la... comme disait Stirner, donner la parole à un chrétien, un juif ou un musulman, il ne dira que des niaiseries bornées. Ben, cette borne, effectivement, c'est le catéchisme, c'est le dogme, c'est le fait qu'on n'a pas à discuter. Il y a une vérité, point à la ligne. Or, c'est évidemment l'opposé total de l'émancipation. Et figure-toi que à la télé, j'entendais un inspecteur général de l'éducation nationale faire le même discours, c'est-à-dire dire « Ah ben oui, il faut que la laïcité, il faut faire une loi pour empêcher la prolifération du voile islamique », mais il ajoutait « Mais la laïcité, c'est aussi la liberté de culte ».
Oui, oui.
Hein, si tu veux, vraiment, on est prisonnier d'une idéologie officielle.
Oui.
Et ça se traduit même, alors, autre actualité, je sais pas si tu as vu qu'il y a une pièce de théâtre de Diderot, la religieuse, qui est ressortie tout récemment. Eh bien, le réalisateur, qui lui aussi doit être un Hollandais de première bourre et un Curton de première catégorie, figure-toi qu'il dit « Ah ben moi, j'ai pas voulu... » Comme il y avait eu un scandale, évidemment, à l'époque où Diderot avait écrit ce pamphlet qui était non seulement pour stigmatiser la violence qui est faite à une femme qu'on oblige à devenir religieuse, mais qui était aussi un pamphlet anticlérical. Eh bien, figure-toi que le réalisateur qui ressort la pièce dit « Mais c'est pas du tout anticlérical, moi j'ai juste voulu dire que c'est pas bien de forcer une jeune fille à entrer dans les ordres.
Oui. »
Alors tu te rends compte de, là encore, et personne ne va protester, on relève ça tout naturellement.
Oui, alors ça aussi, c'est à ce que disait tout au début de cette émission, hein, si tu veux, le matraquage médiatique, la langue de la Ve République, la voix officielle. Alors ça, c'était à relever aussi, puisque tu évoquais le commerce des armes, je voulais en parler dans cette émission, et simplement, il faut quand même...
Ah oui, t'as vu qu'il y avait 350 bourses aux armes en France ?
Oui. Alors, pour ça, justement, c'est que je parlais tout à l'heure du Conseil de sécurité à l'ONU. C'est le Conseil d'insécurité absolue. Il y a cinq membres qui font évidemment la pluie et le beau temps et le massacre sur l'ensemble de la planète.
C'est le droit au massacre.
Voilà, le droit au massacre. Alors les États-Unis, encore une fois, alors les États-Unis numéro un, hein, la Russie numéro deux, le Royaume-Uni en troisième position et la France quatrième, avec la Chine, hein, puisque je parlais tout à l'heure du cochon chinois flottant, je vais en parler un mot tout à l'heure, la Chine en cinquième position, et là encore, ce qui était dit, c'est que la Russie, par rapport à ce traité qu'ils essaient de mettre en place, mais qui va pas, il va absolument pas aboutir, en tout cas, puisque par rapport aux ventes d'armes, eh bien...
Oui, parce que c'est vrai que dans l'actualité, j'ai vu qu'ils prévoyaient de faire un nouveau traité sur le commerce des armes.
Exactement. Alors, les armes classiques, hein, on met en dehors, évidemment, j'ai parlé tout à l'heure de 100 milliards, hein, le budget est astronomique par rapport à ça, le budget de mort, mais la France est particulièrement bien placée, et là, on la met en équivalence avec la Russie pour dire que la Russie alimente le régime de Bachar el-Assad et évidemment que la France elle risquerait de rééquilibrer encore une fois réunis avec la Grande-Bretagne au niveau des armes et la manière de dire, eh bien, nous produisons des armes, et exactement le soulignait pour le Tchad, qui est en position d'un des pays les plus pauvres de la planète et qui a un commerce gigantesque d'armement avec la France pour armer le Tchad et pour appauvrir, rendre misérable sa population et développer des formes de rébellion, encore une fois, qui risquent de se développer partout dans tout un tas d'États africains, parce que la France est du côté évidemment des chefs fantoches d'État bourgeoisie africaine et elle leur livre des armes. Alors le Mali, ce n'est que le début par l'ensemble de ces pays, et il y a une cohérence, c'est-à-dire de fabriquer des armes, hein, le pays des droits de l'homme mort, de fabriquer des armes et de les vendre. Et donc la France a le budget, un des budgets les plus importants pour ce qui concerne des armes livrées en Afrique.
Moi, ce que je voulais souligner, c'était le mépris de l'individu, c'était aussi bien en ce qui concerne l'otage qui vient d'être exécuté que les otages en général, le mépris de l'individu et le mépris de l'instruction, le mépris du jeune à qui on doit apprendre à l'école à critiquer, comme tu l'as dit d'ailleurs au début de l'émission, à développer son esprit critique, et le mépris de l'individu à qui il a même plus la possibilité d'avoir, comme les paysans, tu sais, du Moyen-Âge, d'avoir un coffre-fort chez lui pour essayer de planquer son argent, puisqu'on lui pique quand on veut, et que par conséquent, là encore, c'est simplement il est devenu ce citoyen, là, comme tu dis, il est devenu un objet négligeable à qui on peut prendre ce qu'on veut et qui n'a rien à dire.
Alors Jacques, il a à dire quelque chose, quelquefois ça arrive. Celui, souvenons-nous, puisque là on aussi peut-être parler de ça, quand on parlait de Sarkolande, de se rendre compte que c'est la même chose, c'est-à-dire que le système en place, le régime en place, c'est évidemment la continuité. Comme avait dit Badiou, on va le citer, il avait dit empire, hein, et là c'est vrai que, en tout cas, souvenons-nous de l'injure à chef d'État, qui est quand même marquée, hein, dans le droit français, et la condamnation qui a été faite par la Cour européenne de cette personne de Laval, qui avait eu cette petite pancarte vis-à-vis de Sarkozy où il avait écrit « Casse-toi, pauvre con », qui avait été condamné.
Par un tribunal français, un peu comme, tu sais, un blasphème.
Offense à chef d'État. Alors, ce qu'il faut dire, donc, condamnation par la Cour européenne, là, le canard enchaîné s'en réjouissait parce qu'il y a quand même des affaires avec M. Hollande. Quand on dit c'est Sarkolande en empire, il faut quand même rappeler les différentes affaires pour M. Hollande. Dernièrement, le voyage de M. Perrichon, hein, comme on l'appelle, ou comme on le surnomme Pépère, ou on l'appelle le Pingouin, hein, tu sais, Jacques.
Eh bien, je savais Pépère, je savais pas le Pingouin.
Le Pingouin, bah, c'est nouveau, Carlita. Alors moi, je disais que c'était bien choisi plutôt que Manchot.
Parce que le Pingouin, jusqu'alors, c'était destiné à Rocard.
Oui, mais alors pourquoi, pourquoi vis-à-vis de lui plutôt que le Manchot? Tu sais que le Pingouin ou le Manchot, enfin, pour les auditeurs, on va faire un petit peu justement d'ornithologie, eh bien le pingouin vole, c'est un oiseau qui peut voler.
Ah oui, oui, oui.
Et alors que le manchot, non. Et donc ça lui va mieux, parce que comme voleur, non, oui, de haut vol, oui, oui, ou personnage au vol. Alors, dernièrement, souvenons-nous à Dijon. Comment ça s'est passé à Dijon? Comment
les médias ont retracé l'affaire? Oui, j'ai vu le petit journal.
Les
critiques qui ont été faites à Hollande.
Le KGB KGB.
Le mec a été absolument matraqué par le service d'ordre parce qu'il disait simplement « Été promesse, Hollande, été
Exactement,
promesse.
Simplement. Donc, il était dans le registre de la Cour européenne qui disait « C'était un propos politique ». Et un propos politique, eh bien, quand un citoyen, comme tu dis, ou comme je dis, passe à l'action, eh bien, on voit la répression, comment elle se met, avec quelle violence elle se met en place. Et je voulais rappeler quand même, Jacques, si tu sais aux auditeurs cette affaire, il y a, pour les agriculteurs, une situation absolument tragique en ce qui concerne leurs revenus, et en particulier pour les retraités.
Je ne sais plus quel journal avait souligné qu'il y avait un pourcentage un peu anormal de suicides.
De suicide. Eh bien, ce qui s'est passé dernièrement, il faut savoir, il y a 500 agriculteurs retraités de l'Indre qui ont envoyé des miettes de pain dans une enveloppe à Hollande.
Ouais.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont tous été convoqués par le commissariat. Je ne sais pas s'ils ont été mis en garde à vue, mais voilà le pays, messieurs, dames, dans lequel vous êtes. Donc là encore, une fois, les journaux éventuellement peuvent exprimer, comme dit, ils s'en vantent, le canard enchaîné, tant mieux. Mais quand les citoyens passent à l'action, des actions politiques comme celle-là, eh bien
la répression
est absolue.
Ah ben oui, oui.
Voilà. Alors ça, c'est quand même à remarquer, parce justement cette affabulation que l'on nous tient de chacun d'entre nous, hein, de régime en place, avec ce mot démocratique, et j'en parlerai tout à l'heure pour voir que nous ne sommes pas évidemment dans un pays démocratique.
Bah, évidemment,
hein, bon.
Oui, absolument, et justement je suis tombé par hasard en regardant, parce que je m'intéresse au pape, tout à l'heure je te disais que je cherchais ici dans la région quelques antipapes. J'ai remarqué qu'il y en avait une douzaine au cours de la vie du Vatican, et que il y en avait qui s'étaient installés à Pise, et puis il y en avait qui s'étaient installés à Avignon, dans le comtat venaissin. Et donc ces personnages qui effectivement ont marqué l'histoire de France et l'histoire de l'Europe, c'était déjà un peu mieux que la démocratie moderne, parce que quand on pense que on va faire allégeance et qu'un chef du gouvernement français va faire allégeance au chef d'État du Vatican, sans même se poser de questions et sans même se dire mais au fond est-ce que véritablement c'est ma place, moi qui prétends défendre de l'idéal républicain, l'idéal démocratique, l'idéal laïque, c'est absolument invraisemblable de voir à quel point ces personnages n'ont aucune conscience, n'ont aucune dignité, n'ont aucune morale. Et c'est d'ailleurs ça qu'ils n'en ont pas plus à l'égard des gens qui sont censés gouverner. C'est vrai que je suis tombé aussi donc en cherchant sur cette histoire de pape Avignon, je suis tombé sur une fable de La Fontaine dans laquelle on parle d'un âne qui s'appelle un roussin d'Arcadie. Alors je me demandais ce que c'était que l'Arcadie,
mais
c'était une province grecque, figure-toi. Et dans la légende, parce qu'elle a toute une légende, eh bien les Arcadiens ne voulaient pas de chef.
Oui.
Hein, c'est un petit peu comme
alors...
ce que raconte ce cet historien, sur l'Amérique du Sud, là, les Indiens qui ne veulent pas, qui ne désignent un chef que lorsqu'il y a vraiment le feu.
Clastres, Pierre Clastres.
Voilà. Eh bien, effectivement, l'Arcadie était considérée à l'époque comme le pays du bonheur, le pays de l'âge d'or, et dans lequel il y avait au fond une vision anarchiste de l'organisation de la société.
Oui, mais alors, là, les parallèles que tu pouvais mettre, puisque tu évoquais le pape et quand on le ridicule avec François Ier, dans un premier temps, appelé avec numéroté, parce que pour la petite blague, on disait 22 v'là les flics, tu sais bien, et 23, et bien 23 v'là la curaille. Pourquoi 23 v'là la curaille? Parce que c'est Monseigneur, leur Seigneur 23, archevêque de Paris, tu sais, André 23. Alors simplement aussi, il faut voir les parallèles chanoines de Latran, hein, Saint François, et en même temps c'est le développement des boutiques religieuses, puisqu'on observe d'un autre côté, comme tout à l'heure. Offense à chef d'État, à une sorte, c'est déjà pointé, je l'ai vu, hein, par rapport à un sociologue, mais on l'a pointé depuis longtemps, une forme de sacralisation de l'État, sacralisation de la République, et donc on le voit bien pour ce qui est de l'hymne de la Marseillaise.
Oui, alors, sacralisation, voilà, comme tu dis, c'est un mot effectivement qui est tout à fait conforme
Exactement, la religion d'État. Donc, quelqu'un qui s'appelle Éric Fassi, alors je te dis ça, Jacques, comme ça je voulais en parler rapidement aux auditeurs, il vient d'écrire « Démocratie précaire ». Alors, faut dire précaire, enfin bon, le titre, je ne suis pas forcément en accord avec ce titre, pour dire que la précarité, c'est ce qui est obtenu par la prière, mais il pointe très bien la sacralisation de cette République, la sacralisation de l'État, et qui fait qu'il demande à chaque citoyen d'être un fidèle,
absolument,
d'être un croyant. Et donc, s'il blasphème, on est bien dans l'ordre religieux, et bien à ce moment-là, il doit être sanctionné. Et on voit bien, justement, les condamnations, comme là, je te parlais des agriculteurs, la manière dont les personnes ont été bousculées et frappées en ce qui concerne ce qui s'est passé à Dijon, et de la réaction de Hollande quand il parle tout à l'heure de la prise d'otage, comme tu l'évoquais, que l'ensemble du peuple, et de dire, moi je suis le peuple, comme Monsieur Robespierre, Robespierre. Hein. Donc on est dans cette forme-là, et on voit bien que les gens ne réagissent pas parce qu'ils se comportent plus comme citoyens, mais citoyens, ils se comportent comme des fidèles, ils sont dans une sorte de vénération et d'abrutissement, et ils ne disent plus rien.
Ouais. Dans le Canard enchaîné, il y a deux ou trois semaines, tu sais, à l'époque où en Espagne et un peu ailleurs, il y avait des mouvements d'indignés, et il y avait un dessin de Cabu où on voyait le pape, qui n'avait pas encore démissionné, et qui voyait cette foule de 100 000 fidèles qui étaient agenouillés devant lui sur la place Saint-Pierre, et qui dit, alors la légende c'était... Après les indignés, les résignés.
Oui.
Et effectivement, quand Trudeau dit que l'islam, ça veut dire résignation,
exactement,
eh ben, je crois que c'est ça qui est triste. Et c'est notre boulot et le tien, en particulier, puisque t'es sur place pour Chronique Hebdo, de réveiller les résignés.
Réveillons les résignés, et puis là, comme tu l'évoquais, évidemment, comme on parle de catéchisme républicain, qui veulent remettre avec cette histoire de refondation de l'école de la République.
Absolument.
Alors là, il y avait de quoi, évidemment, de rigoler, mais ce qui est beaucoup plus grave, là aussi, encore une fois, si on veut rallonger, enfin, comme on parlait tout à l'heure au début de ton intervention, de tripalium, de travail, de faire travailler les gens maintenant au-delà de 65 ans, ils sont presque tous d'accord, comme on l'avait déjà évoqué il y a très longtemps, jusqu'au cimetière, on est évidemment dans ce système-là jusqu'au cou, par rapport à vouloir obliger et une sorte, on voit bien que pour l'école, ce que je voulais dire, c'est que ça va dans le droit fil travail jusqu'au cimetière avec les 4 jours et demi. Alors les 4 jours et demi pour les enfants, la suppression aussi d'une partie des vacances d'été, et de les faire aller à l'école, parce qu'on dit les pauvres chérubins, eh bien la rupture de 2 jours d'un samedi à dimanche, là ça peut se discuter, mais le prétexte de dire qu'il faudra qu'ils aient qu'une journée et demie, c'est qu'ils sont c'est qu'ils sont, avec cette rupture, un peu étourdis, un peu ébahis quand ils reviennent le lundi. Eh ben, il faudrait se poser la question, qu'est-ce que leur fait l'école?
Voilà. Et est-ce que tu crois pas que c'est là encore, tout à l'heure tu parlais d'enfumage, est-ce que tu crois pas que c'est de l'enfumage que de centrer sa réflexion quand on prétend diriger le ministère de l'instruction, de l'éducation nationale,
Monsieur Payon,
sur des durées de congé sur des horaires d'école, alors qu'il y a tellement à faire dans le domaine justement du développement de l'esprit critique.
Ah oui, mais c'est le contraire.
Payon, cet alter Jules Ferry, alter, comment on l'a appelé, Ferry Tonkin.
Ferry Turton,
effectivement disait que finalement il fallait pas contredire surtout la morale du curé.
Le prêtre.
Eh bien, ce Payon, il a l'intention de faire en quelque sorte intervention à l'intérieur des programmes scolaires. Il a l'intention de faire des cours de morale civique.
Bien sûr.
On voit très bien ce que ça va être la morale du citoyen.
Exactement. Bah, c'est ça la sacralisation. L'école, justement, l'éducateur, comme tu dis, de la République, hein, pour faire justement un fidèle, un soumis et un résigné à cette République des puissants, à cette République des grands voleurs, à cette République qui exploite, qui condamne chacun d'entre nous, justement, au travail contraint, au travail obligatoire, au travail forcé pour le système capitaliste. Et les enfants qui baignent là-dedans, eh bien, c'est comme on le dénonce, justement, ce catéchisme républicain qui est absolument redoutable, parce qu'il est toujours vanté pour la plupart de la population comme un moyen pour les enfants, justement, les adolescents, eh bien, d'apprendre, de réfléchir, ou comme on disait tout à l'heure, d'avoir un petit peu d'esprit critique, alors que c'est tout le contraire. Absolument. C'est tout le contraire, et ça, ils veulent évidemment le développer, et ça, c'est encore une ruse habituelle, supplémentaire, des dominants. Évidemment, comme on dit souvent, c'est l'école du capitalisme, c'est l'école de la bourgeoisie.
Voilà. Alors, ben, je vais te laisser continuer.
Ben, Jacques, si tu
voulais évoquer là aussi ce mépris des individus et des consommateurs,
bien sûr,
des gens qui doivent manger pour vivre. Quand on voit qu'après le cheval, après le mouton, voilà le cochon. Je crois que là encore, on est dans une société dans laquelle les traders, les banquiers, encore une fois, n'ont qu'un souci, c'est de faire du fric sur le dos, y compris en faisant mourir leurs clients. Mais alors, on en est presque arrivé à propos de cette façon de faire mourir les gens. On est presque arrivé à ce que on parlait, ce qu'on disait tout à l'heure sur les fabricants d'armes et la chanson de Boris Vian disant qu'à la fin, il n'y aura plus personne pour à la fois utiliser et recevoir des armes. Il y avait aussi je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais j'avais lu dans Le Monde, à propos de la guerre du Liban, qui avait duré 7 ans, un ancien combattant qui disait « Quand on a une arme dans les mains, elle remplace le cerveau ».
Oui.
Et je crois qu'effectivement, c'est bien pour ça
les
Hollande et compagnie,
exactement,
qui ont une arme dans les mains, et ben effectivement, ils n'ont même plus de cerveau, ni plus de raison.
Voilà, Jacques, eh bien, écoute, très bien, la liaison.
Ben, j'espère que ça a marché.
Oui, formidable, puisque j'ai le rappel, comme on dit, sur mon intérieur, sur mon écran de contrôle.
Ah bon, eh ben, c'est parfait.
Voilà.
Eh ben, alors, je t'embrasse, et alors, à bientôt, mon grand. On essaye de reprendre des forces au soleil.
Exactement, bah c'est bien, tenez le coup. Alors, pour les auditeurs, eh bien, je vous rappelle, c'est l'émission Chronique Hebdo sur Radio Libertaire. Jacques, vous savez, Josie Gérard, animateur de cette émission, chroniqueur plutôt de cette émission, et où tout à l'heure, on a essayé quand même te dire de réveiller, si modestement, mais enfin les consciences, de ne plus être dans la résignation, mais dans la révolte. De toute façon, comme disait Camus, la révolte, c'est la vie. Alors, après quelques parties musicales, eh bien, Jacques, je retourne à mon cochon.
Eh bien, salut, mon grand.
Salut.
Thank you. d'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux. J'aurais vécu obscur et sans esclandre, en garde le cœur tendre, le long des jours heureux, pour faire des vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu.
C'est pour ça,
c'est vrai, c'est vrai.
Radio Libertaire, chronique hebdo, a un peu de tendresse avec une chanson, c'est l'herbe tendre, interprétée par Michel Simon et Serge Gainsbourg, qui en était l'auteur-compositeur. Voilà. Alors, l'émission Chronique Hebdo reprend, et je ne pourrai pas répondre au téléphone, parce que le standard, là pour le moment, je suis à l'antenne, donc si un auditeur souhaite nous joindre, eh bien qu'il rappelle plus tard, et pendant une autre partie musicale. Alors, je voulais vous parler, on vous l'avait dit tout de suite, hein, j'avais commencé sur l'affaire des cochons. Je pense qu'on veut peut-être me joindre parce qu'il y a quelque chose d'important, ou non. Et alors, je vous rejoins, puisque l'auditeur veut pas cesser d'appeler, donc je vais y aller, voilà. C'est reparti. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de cochon chinois flottant, cochon de payant chypriote, et puis le cochon hexagonal. Alors, effectivement, donc, les quelques lignes, hein, ça s'est passé il y a quelques jours, justement, dans la province de Zhejiang, en Chine, hein, et quelques lignes pour vous dire que les pêcheurs de Xifeng, c'est proche de Shanghai, sont en colère. Ils trouvent plus de cochons morts que de poissons dans la rivière ces temps-ci. Voilà. Tous les villages alentours, des fermiers jettent, pourquoi, des carcasses à la rivière. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être, je ne sais pas qui c'est, qui s'amuse. Hein, voilà, c'est pour ça, la perturbation, là. Technique ou autre, pour tout vous dire aux auditeurs, nous sommes dans le studio de Radio Libertaire et le standard, Il n'y a personne au téléphone et le standard ne fait que clignoter. Voilà, clignoter, alors ça clignote et puis ça fait des petits bruits. Et il n'y a personne sur les trois lignes. Alors je ne sais pas qui s'amuse, peut-être, hein, voilà, il y a peut-être des interventions extérieures, puisque en tout cas c'est relativement gênant et perturbant quand on est à l'antenne, ou tout du moins au micro de Radio Libertaire. Alors ça continue, bon, ça continuera, donc on verra ce qui se passera pour la suite, hein, puisque j'ai vérifié tout à l'heure, et donc c'est très difficile, hein, de toute façon, de pouvoir... continuer, je vais essayer, hein, c'est dans des conditions très difficiles. Peut-être les sujets sont peut-être difficiles, un peu compliqués, ceux qu'on explique et qu'il faut peut-être les perturber, je ne sais pas. Je pose la question, hein, en direct sur l'antenne de Radio Libertaire dans l'émission de Chronique Hebdo. Alors, malgré donc ces signaux perturbants, je vais essayer de continuer. Et je vous disais donc... peut-être les Chinois, hein, je ne sais pas, les services secrets. Et donc, voilà la situation. Alors, pourquoi ça? Pourquoi cette situation-là en Chine? Eh bien, encore une fois, des histoires de pognon. C'est que la collecte, il y a eu une épidémie, certainement une épidémie, des conditions climatiques très difficiles dans la région, dans cette région chinoise, proche de Shanghai, et de nombreux animaux, de cochons, de truies, de porcelets, sont morts soit de froid, ou soit suite à cette épidémie. Et donc, pour les éleveurs, on va dire ça comme ça, les fermiers, eh bien, la collecte qui pouvait se faire justement par rapport à des camions qui auraient brûlé après ou se débarrassé des carcasses dans d'autres circonstances, c'était, il fallait payer, il fallait donner du fric pour pouvoir effectuer ce travail, eh bien, il était plus intéressant, en tout cas, moins appauvrissant, on va dire ça comme ça, pour ces éleveurs, pour ces fermiers, de balancer les carcasses des animaux à la rivière. Alors, c'est pour ça qu'on a retrouvé donc des milliers, hein, parce que ça ne concerne pas quelques animaux, qui ont été balancés, justement, dans ces rivières chinoises. Et là aussi, on parlait tout à l'heure de la malbouffe, mais au-delà de la malbouffe, de l'empoisonnement, la mafia locale, là-bas, rachetait les cochons morts, hein, par le virus pour les revendre sur les marchés de la région, présentés, évidemment, ils présentaient ça comme de la viande fraîche après découpe. Alors, là aussi, je vous disais tout à l'heure, hein, je vous l'avais signalé, que le nouveau Premier ministre a promis de lutter contre les fraudes dans l'agroalimentaire avec une main de fer, hein, une main de fer. Voyez, alors, la situation, donc, on peut dire farine animale pour nourrir la poisson, eh bien là, c'est carrément c'est même plus de la farine, c'est qu'on balance les animaux donc à la flotte pour nourrir les poissons, hein. Donc c'est une nouvelle façon, encore une fois, d'élevage, là on va dire très moderne, puisque on parlait tout à l'heure de la planète, l'ensemble de la des pays qui ont le même type d'élevage ou d'agriculture industrielle. Donc en ce qui concerne la Chine, et je vous disais le lien qu'on pouvait faire rapidement avec la France, eh bien ça c'est la nouvelle directive européenne, c'est-à-dire pour le fait de rendre les animaux, les truies en tout cas, et les cochons, et donc les élevages de porcs, de rendre les animaux heureux, c'est-à-dire qu'on va mettre, au lieu de mettre 30 cochons dans une cage, eh bien on n'en mettra plus que 25. Alors un peu, ça coûtera encore beaucoup plus cher, c'est ce que disent les éleveurs, et en particulier la Bretagne, où ça avait concerné avec l'élevage des cochons, hein, qui est numéro un pour la Bretagne, et les conséquences, ce sont les nitrates dans les nappes phréatiques, dans la flotte, et les pollutions des algues vertes sur toutes les côtes bretonnes, et en particulier dans les côtes d'Armor. Ça, c'est une chose. Là aussi, eh bien, on renoncerait à prendre des décisions parce que on mettrait en péril, paraît-il, par ces mesures européennes, l'élevage tel qu'il est pratiqué. puisque 33% de ces élevages de truies, hein, actuellement ont été mis aux normes. On en compterait à peu près 8000. Et donc, les éleveurs protestent en disant que c'est impossible de suivre les normes européennes. Sans ça, ils seraient obligés d'arrêter, évidemment, leurs pratiques d'élevage, comme on dit, vous le savez bien, qui sont des pratiques d'élevage qui ont beaucoup de considération envers les animaux, mais qui sont d'un tel niveau actuellement que ces normes-là, comme on parle de la concentration, d'un élevage concentrationnaire, je vous encourage, si vous voulez voir un peu les images du crime, allez sur Internet, hein, pour les gens qui n'ont pas Internet, c'est une possibilité, va voir chez un ami ou quelque part où il y a la machine, et il tape justement dans un moteur de recherche cochon, hein, c'est tout simple, puisque je vous parlais tout ce matin des cochons, et ils verront donc une séquence, hein, c'est à peu près 7-8 minutes, qui a été filmée en 2008, à peu près, sur un type d'élevage d'hexagonal français, et vous verrez comment est faite l'incarcération, la torture des animaux, des truies, des cochons et des porcelets, et c'est ça, évidemment, qu'il faut préserver pour les normes de rentabilité, et c'est ça qu'il faut préserver pour faire du cochon, justement, vous le savez, comme le cochon chinois, du cochon poison, hein, puisque non seulement après, vous savez qu'on a trouvé de la viande de cheval non seulement avariée en Belgique, mais là, dernièrement, les usines Spanghero, hein, qui sont à l'origine de ce scandale sanitaire, paraît-il, ou agroalimentaire, par rapport aux lasagnes, et qui contiendrait du cheval, et bien là ils sont à nouveau sur la sellette avec de la viande de mouton importée de Grande-Bretagne, absolument interdite, hein, parce que cette viande de mouton est insalubre, était une viande de mouton de qualité qui n'existe plus, hein, ce sont quasiment des déchets. Voilà un peu la situation, donc je voulais vous parler justement de la relation entre les animaux et les hommes. La manière de traiter les animaux, ben c'est la manière dont on traite les hommes, et la manière dont on traite les hommes, c'est la manière dont on traite les animaux. Et la façon aussi de voir qu'il y en a pour tout le monde, et il y en a pour tous les animaux, sur l'ensemble de la planète, hein, que ce soit évidemment les nouvelles pratiques alimentaires, puisque les pays dits pays en développement, comme la Chine ou comme l'Inde, ou comme les pays, vous le savez maintenant, d'Amérique du Sud, ben, se mettront à l'alimentation carnée, hein. C'est de plus en plus l'alimentation animale. Et là, une auditrice nous disait tout à l'heure, eh ben, non seulement les normes, là, elle a vu ça pour le salon de l'agriculture dans l'Hexagone, dernièrement à Paris, pour les élevages de poules, là aussi concentrationnaires, et puis de la même manière, on en avait déjà parlé, une manifestation du côté d'Amiens, où pour les vaches, ce sera aussi la même chose, hein, des vaches qui ne sortiront plus, qui n'iront plus évidemment dans l'herbe tendre, comme dans cette chanson, mais qui seront incarcérés. Hein, non seulement, comme on dit, l'incarcération, il faut foutre le plus de gens en prison, eh bien il faut commencer évidemment à foutre le plus d'animaux en prison et en faire que des animaux, évidemment. Là aussi, quand on parle de déshumanisation, eh bien la déshumanisation, désanimalisation, de la même manière, ce sont des pratiques totalitaires. Et là, l'homme a perdu totalement ses repères et justement son humanité, et c'est très grave pour chacun d'entre nous. Alors là aussi, ce sont les dérives justement de sociétés totalitaires, ce sont les dérives des sociétés évidemment capitalistes, le capitalisme sur l'ensemble de la planète qui est prêt à tout, hein, c'est-à-dire de pour faire du pognon. Et là, on en parlait tout à l'heure avec ce deuxième sujet que j'aurais pas vraiment le temps de traiter avec les ventes d'armes, hein, comme on disait par rapport à ce traité qui n'aboutira pas, et puis où l'on retrouve quand même la France en quatrième position, là aussi les États-Unis en première position, et non seulement dans ce traité, on ne parle pas des munitions, et pour vous dire que les munitions, comme certains avaient fait la remarque, s'il n'y a pas de balles, s'il n'y a pas de munitions, et bien à ce moment-là, on peut pas utiliser les armes. Et il faut rappeler que dans ce traité, l'aspect justement des munitions et des balles est complètement mis de côté, pour la pratique, enfin l'explication suivante, c'est les États-Unis qui produisent le plus de munitions, le plus de balles. Alors on le sait, hein, l'amendement 1 ou premier amendement des États-Unis, être armé hein, pour pouvoir se défendre, mais pour pouvoir surtout flinguer celui qui est en face de vous. Alors nombreux événements, vous le savez, pour les États-Unis. Donc là encore, le changement avec Monsieur Obama... Hein, qui devait prendre après cette tuerie dans une école puisque le lobby des armes est extrêmement puissant de différentes contraintes, eh bien il y a quasiment rien n'a été fait, donc les États-Unis en tant que démocratie modèle de pour l'ensemble de la planète, eh bien sur ces sujets particulièrement criminels, des sujets particulièrement justement qui mènent à la mort, qui mènent à la destruction de la planète, sont particulièrement bien placés, comme je vous le disais tout à l'heure, au Conseil de sécurité, à l'ONU, 193 pays, 5 pays hein, en particulier, je les citais tout à l'heure, États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France et Chine, Conseil d'insécurité majeure, et eux, ils font la pluie et le beau temps sur les armes, sur l'armement. Alors après, ne nous étonne pas que, en particulier pour l'Hexagone, on nous vende, évidemment, hein, la propagande Staffel sur l'ensemble des médias, eh bien, tous les conflits, et en particulier le conflit du Mali, et ceux qui vont suivre, hein, de cette manière, en disant, ben, évidemment, nous avons des intérêts majeurs à défendre, à qui profite le crime, c'est-à-dire les mines d'uranium, les différents marchés, hein, là aussi, la monoculture pour l'Afrique, et des marchés colossaux, et des anciennes colonies françaises, et évidemment, on habille tout ça, puisque c'est le boulot des communicants de l'ensemble de ce gouvernement et à tous ceux qui profitent évidemment de ce système, de l'habiller avec des droits de l'homme, de l'habiller sur des versions humanitaires, de l'habiller pour dire, eh bien, on va porter la démocratie dans ces pays-là à coups de bombe sur la gueule. Voilà un peu la situation et ce qu'on a essayé de dire ce matin dans l'émission Chronique Hebdo sur Radio Libertaire. Alors, avant de terminer, conclure quelques minutes, je voulais vous faire deux annonces. Alors, deux annonces, ça concerne la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Vous savez, c'est la fameuse formule. Et donc, ça aura lieu vendredi, c'est-à-dire demain, à partir 19h30. Après la librairie, c'est toujours la librairie, les soirées vidéo. Et ce sera une projection débat. Demain soir, à partir de 19h30, je vous l'ai dit, avec Yanis Yulontas, qui est l'auteur de « Paroles de mur athénien » et « Derrière les mots » qu'il a publié aux éditions Libertaires. Il y aura la projection d'un film documentaire, « Dédale, un fil vers la démocratie » de Manu Borghetto et Laurent Lhermitte, Alice Tabar et Christian Vialaret. Et une discussion sur la situation en Grèce suivra la projection. Alors vous savez que l'entrée est libre. L'entrée est libre et gratuite, ainsi que la sortie. Et je voulais vous l'annoncer aussi la suite pour ce qui est des rencontres de la librairie Publico. Et ça sera le lendemain, samedi 23 mars, à partir de 16h30. Rencontre débat avec Alain Brossat autour de son livre Autochtones, imaginaires, étrangers, imaginés, aux éditions du Souffle. Et donc, présentation de cet ouvrage, discussion à 16h30 à la librairie Publico, 145 rue Amelot, je vous le rappelle, Paris 11e. Donc, l'émission Chronique Hebdo, eh bien, c'est terminé. J'espère vous retrouver pour un autre épisode non neigeux la semaine prochaine. Salut !